Il y a 3 semaines, j'ai enseigné à Thumri, quand nous étions ensemble, Thumri et Wavrin, j'ai enseigné sur la joie. Soyez toujours joyeux. Et après, j'ai enseigné sur, faut remercier Dieu en toutes circonstances. Et après, waouh, 3 semaines. J'ai dit, mais Robert, est-ce que tu vas rester joyeux devant tout ce qui arrive? Est-ce que tu vas pouvoir remercier Dieu en toutes circonstances, car telle est sa volonté? Et donc, c'était une bataille. C'était une bataille. Et la joie de Jésus n'est pas sans meurtrissure. La reconnaissance de Jésus n'est pas sans meurtrissure. Et ça, c'est tellement différent de ce monde. Parce que ce monde, une joie, c'est comme si on est élevé sur une sorte de nuée de bonheur, sans aucun problème. Mais non, non, la vraie joie sort des difficultés. La vraie joie sort de la victoire contre l'ennemi. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez un ennemi. Nous avons un ennemi. Les nations ont un ennemi. Et là, en Apocalypse, hein, Apocalypse, ça veut dire on dévoile des choses, on dévoile des réalités. Et en Apocalypse, il y a des moments où on dévoile des réalités spirituelles éternelles. Hein, et on parle quelquefois de ce qui va se passer sur la terre, mais quelquefois on parle de ce qui est derrière tout ça. Et en Apocalypse 12, on dévoile le mal et des puissances. Je ne vais pas faire une étude sur Apocalypse 12 ce matin. Mais j'aimerais juste vous dire une dure vérité. Parce qu'Apocalypse, ça se situe en dehors du temps. Même s'il y a une progression vers un but, vers un telos, vers la perfection de Dieu, Apocalypse, c'est pas juste oh, ça va arriver à ce moment-là. C'est déjà, et ça va aller de plus en plus fort. C'est déjà, pas encore. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'on lit en Apocalypse? Le verset 17 de Apocalypse 12, ça parle d'un ennemi. Il dit, Apocalypse 12, hein, verset 17, le dragon, et il dit cet ancien serpent dans le jardin d'Éden. Cet ancien serpent qui a volé notre paradis, qui a volé notre vie éternelle, qui a volé notre bonheur. C'est ça, quelque chose à l'origine du temps a volé, a séduit, a menti. Et cet ancien dragon, il est toujours là. Et il dit, le dragon fut irrité contre la femme. Et cette femme qui a donné naissance. Et souvent les catholiques disent c'est Marie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une femme, c'est Israël, c'est l'Église, c'est tous ceux qui intercèdent pour enfanter le royaume de Dieu sur la terre, pour enfanter le règne de Jésus. Et il y a une opposition contre ce règne de Jésus, une opposition farouche. Et il dit le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. Et depuis, je dirais, Ève, il y a une descendance. Et on voit qu'il y avait une descendance choisie par Dieu après ses jugements, après Noé. Il a choisi Abraham. Et après, il y avait Shem. Il y avait toute une descendance qui était là. Il a donné la loi à Moïse. Et il y avait une promesse d'un Messie qui allait venir. Un Messie, un Christ, celui qui était roi. Un Juif roi du Saint-Esprit. Un Juif roi du Saint-Esprit. Et il allait venir. Et le monde attendait cette restauration du péché d'Adam. Parce que c'est ça, le pire péché du monde. Parce que quelquefois, on est dans le concours de pires images, de pires péchés. Il a fait ça, il a fait mal. Ça ne nous fait pas beaucoup de bien de juger l'immensité des péchés. Ça nous démolit un peu. Mais le plus grand péché, c'est là où on a cédé le paradis. Ça, c'était le plus grand tragédie de l'histoire. C'est quand on a cédé le paradis, pas par notre mauvaise volonté, mais parce qu'on était tellement séduit par Satan, parce qu'il y avait une guerre. Et quelqu'un est venu réparer tout ça, Jésus-Christ. Il est venu comme un deuxième Adam, pour tout réparer, pour mourir sur une croix, pour dire tout est accompli. Et il nous a restaurés dans notre position d'enfant du paradis. Il a restauré tout ça il y a 2000 ans sur une croix. Mais le dragon est toujours là. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. À ceux, et donc il y a deux catégories de personnes ici, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Qui sont ceux qui ont la loi, qui gardent les commandements de Dieu depuis Moïse? Ceux qui gardent le commandement de Dieu, les Juifs, que tu veuilles ou non. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mais ce n'est pas juste eux. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui est, il y a une deuxième catégorie, qui retiennent le témoignage de Jésus. Waouh, ça c'est nous, les chrétiens. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le commandement, le témoignage de Jésus-Christ. Et là, en Éphésiens, il dit que Dieu a fait un seul homme nouveau. Tac, avec ça. Et donc, dans nos tripes, on est tous en guerre. On est tous en guerre. Dans nos tripes, on est tous en guerre. Et je sais que moi, je souffre énormément en ce moment. Je suis en lutte. Bon, je souffre. Jésus, tu sais ce que c'est, la souffrance. Mais je prie, j'intercède. Parce que moi, ça me fait mal de voir ce dragon avec sa irritation qui grandit. Et il veut démolir ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tient debout sur le sable de la mer. Et donc là, il y a les nations là, il y a les gens qui veulent juger, mais ils ne connaissent rien de l'historique spirituel. Il y a les gens qui veulent donner leurs avis, ils ont juste leur anthropologie, juste leur philosophie d'homme, mais ils n'ont pas dans leur trip le ADN de la rédemption, de ce projet de salut que Dieu est en train de faire. Et moi, je ne sais pas si j'ai raison ou non. Moi, je n'ai pas un argument. Moi, j'ai quelque chose dans mon ADN spirituel qui intercède, qui prie. Et moi, je me sens vraiment, comment je peux dire, que c'est le temps de monter un autre degré dans notre vie, de résister à Satan. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je ne veux pas vous décourager. On a peur, il y a le dragon. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, nous venons de prendre la Sainte Seine. Il parle de ce dragon. Il dit que cet accusateur, ce Satan, a été précipité depuis la croix. Là, Jésus a dit, tout est accompli. Et il dit, ils l'ont vaincu. Toujours dans l'Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et c'est bien, quelquefois, on aime bien dire le sang de Christ, le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est le sang d'un juif aussi, le sang d'un messie juif qui nous sauve. Et moi, j'aime bien ne pas oublier ça. Je sais que maintenant, ce sang est pour nous tous, et je sais que quand le Saint-Esprit est en nous, en moi, Jésus, il est un Anglais, aussi de nationalité française, avec un accent. Quand je l'ai vu, j'ai vu Jésus chez les pygmées, il était une femme pygmée, portant un poulet sur sa tête, et j'ai vu Jésus comme un Chinois. Mais essentiellement, historiquement, c'est le sang d'un juif qui nous sauve. Comment ne pas être touché quand on voit encore le sang des juifs versé? Pas juste comme dans une guerre, mais malicieusement, sataniquement, comme Christ crucifié. Sataniquement, humilié, victimisé. Et ça, il y a quelque chose qui est juste au-delà de voilà, tel et tel fait ça, tel et tel. Non, non, allez. Seigneur. Et merci pour ce sang versé. Et ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et c'est le moment de parler. C'est le moment de témoigner. Je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une théorie d'être sauvé par le sang de Jésus. C'est le moment de témoigner. Et quand Christ témoigne en Apocalypse, on voit une épée qui sort de sa bouche. Et nous aussi, quand nous témoignons, il y a une épée qui sort de notre bouche pour vaincre le mensonge. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et après, il faut être courageux, frères et sœurs. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il faut être courageux. C'est le courage qui démolit l'ennemi. C'est le courage. Le courage de parler. Le courage de proclamer le sang de Jésus-Christ, notre Messie. Et nous sommes greffés dans tout ça. Nous sommes greffés dans toute la patte historique d'Israël. Nous sommes greffés dans tous les prophètes, toutes les paroles, tout l'Ancien Testament, toute la sève de la vitalité de la rédemption a commencé en Israël. Et moi, je suis un olivier sauvage, moi. Mais j'ai été greffé dans les bonnes racines. Alors même à cause de ça, qu'on ait une prière, une intercession, que l'esprit d'antisémitisme, anti-juif, ne règne pas en France, ne règne pas dans ce monde. Parce que ça arrive. Mais nous, on a une parole de témoignage. Allez. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux susciter voilà, les foules, à susciter, créer la division? On est pour là, on est pour là. Est-ce que je veux faire ça ce matin? Nous, on doit faire la politique et tout ça. Il y a une place pour la politique. Il y a une place. Mais c'est tellement miné parce que les gens n'ont pas la connaissance de la vérité. Alors, votre lutte aujourd'hui, parce que, allez, lutte. Lutte chrétienne, pas lutte ouvrière. Lutte chrétienne. Et je vous encourage à lutter. Ne pas céder, mais à lutter. Parce qu'on n'a pas l'habitude de lutter. On est une génération de confort, moi le premier. Mais de lutter. C'est-à-dire, c'est le temps de lutter. Le temps de lutter. Et donc, comment lutter? Comment lutter? Éphésiens 6. Ça va être le cœur de mon message ce matin, Éphésiens 6. Et Éphésiens 6. Il y a une grande vérité. Et je vous parle comme un homme de Dieu ce matin, avec cette vérité. Une grande vérité. Et peut-être il y a d'autres vérités autour de cette question, mais ma vérité ce matin, c'est ma vérité d'homme de Dieu, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres discussions autour de ça. Mais ma vérité en tant qu'homme de Dieu ce matin, c'est quand je vous invite à lutter, Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne sais pas si je vais donner un coup de poing à quelqu'un, je ne sais pas. Quelquefois j'ai envie. Peut-être Dieu va dire, mais Rob, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que finalement, l'humanité est victime de cet ancien serpent. L'humanité est victime de cet ancien serpent. Et la vraie bataille, c'est une bataille spirituelle. Après, que tu sois policier, que tu sois dans l'armée, ça c'est un autre appel. Hein. On doit défendre nos familles, bien sûr. Mais je dirais essentiellement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre toutes ces idéologies, tous ces mensonges qui sont là, contre les vraies manifestations de Satan, les mauvais esprits. Ça existe, les mauvais esprits. Ça existe, les mauvais esprits. En France, en 2023, les mauvais esprits, les dominations, les choses qui contrôlent les autorités politiques et tout, il y a un esprit derrière tout ça. Ah, mais Rob, non, on n'est pas au Moyen-Âge. Non, on n'est pas au Moyen-Âge, on est en 2023. Mais il y a une réalité de lutte spirituelle. Et si on oublie ça, si on est tellement conditionné par l'esprit laïque, l'esprit communiste et tout le reste, non, vous allez passer à côté. Parce qu'il y a une bataille spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vais faire pour lutter? Je vais acheter un couteau, je vais faire des musculations, je vais, j'essaie. Il dit, mais la première chose, ou reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est lui qui a gagné cette bataille. C'est lui qui a eu la force. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Ça veut dire que je me nourris de Jésus. Sa force souveraine. Nous avons besoin d'être nourris par sa force souveraine. Et après, bon là, c'est ce matin, j'étais content parce que je suis venu un peu haut. Et ah, ça m'a soulevé là ce matin. Ça m'a renouvelé. J'ai senti la force de Jésus. Parce que quand on a chanté « Guéris-moi, restaure », c'est Jésus en moi, Christ en moi. Alors là, je vous encourage à saisir votre salut ce matin, à saisir Christ en vous. Alors là, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Hein, c'est simple, hein. Est-ce que vous êtes bien revêtus de toutes les armes de Dieu? Le mot en grec, c'est « panoplie », toutes les armes, une panoplie d'armes. Donc Dieu nous donne toute une panoplie d'armes. Mais je vais vous dire, c'est un moment, si je prêche ça ce matin, c'est pour vous encourager à lutter et de saisir ces armes. Et quelquefois, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de dimanche, hein, les armes de Dieu et tout ça. Mais c'est une réalité. Si on ne saisit pas ces armes, on va être démoli. On va être démoli. Et je vous encourage à être revêtu de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça, c'est notre ennemi. Les manœuvres du diable, cet ancien serpent. Le diable, ça vient du mot, bon, il est latin, diabolos, c'est grec, mais ça veut dire dia, balo. Balo, c'est de jeter. Balo, ek balo, ça c'est envoyé dans le monde. Dia balo, ça veut dire séparer des gens avec force. Paf, paf, les gens qui tirent avec tellement de force dans deux directions. Ça, c'est la politique, mon ami. Diable, séparer des gens avec une force, avec une haine, le diviseur, de séparer, faire des guerres civiles, faire des ruptures familiales. Tout est là dans le diable, son cœur de déchirer. Et donc, on doit lutter contre ces manœuvres. Même dans notre propre vie, de lutter contre ces manœuvres. Il se positionne. Il se positionne. Une petite parole là, t'es nul, c'est ta faute, par et lui. Ah, tu as créé la crainte, un climat de crainte, un climat de crainte. Et là, il sème une idée, une parole, et on a un grand morceau de haine en nous. On est séparés. Et surtout, il ne faut pas être séparé de Dieu. C'est ça, la plus grande stratégie du diable, c'est de te séparer du Saint-Esprit. C'est de te séparer de ta force. Et donc, non, tu ne vas pas m'avoir. Et il dit, maintenant, allez, je vais vous donner, on a à lutter contre le diable, je vous donne les armes qu'il nous donne. Vous connaissez, hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour. On est dans les mauvais jours. Et donc résistons ensemble dans ces mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, la vérité. La vérité. Et toutes ces armes sont une incarnation de Christ, d'accord? Parce qu'on voit, on prend une épée, on prend une ceinture, mais c'est Christ ma ceinture, Christ. Et Jésus-Christ, en Jean 14, 6, il a dit, je suis la vérité. Moi, je suis une vérité. Vous savez, la vérité n'est pas un argument, n'est pas une proposition, c'est une présence. Ma vérité, c'est une relation. C'est une présence de Christ en moi. Ma vérité n'est pas premièrement intellectuelle. Ma vérité, je le vis comme une passion. Et moi, j'aime pas des arguments, mais qui a la vérité? Et pour le monde moderne, on est tellement fichu quelquefois, parce que cette vérité, c'est une construction. Chacun sa vérité. Chacun sa vérité. C'est une construction. Mais la vérité n'est pas une construction. La vérité est une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité et qui règne pour toujours. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est une vérité fondamentale à avoir enracinée en nous. Ça, c'est notre ceinture. Et tout tient là. Si tu n'as pas cette vérité, tu n'as aucune vérité. Tu n'as aucune vérité. T'as juste une opinion d'homme. T'as juste une petite... C'est pas procrastination. Voilà ma vérité, ma vérité. Tu as une vérité politicien qui est nulle, qui est de la boue, qui est une séduction. Satan a ce genre de vérité. Mais c'est une vérité sans fondement. C'est une construction. Et nous sommes dans un monde où chacun construit sa vérité. Sa vérité est une construction. Mais non. Je lutte contre ça de toute mon âme. La vérité n'est pas une construction. Ce n'est pas ton orgueil qui dit ma vérité. Toi, tu n'es rien pour avoir une vérité. La seule vérité est dans la personne de Dieu. Et la seule vérité est là sur une croix. La seule vérité est là dans une expérience de Jésus-Christ dans ton cœur. Moi, dit Jésus, je suis la vérité. La vérité est une présence. Est-ce que tu as cette vérité en toi? Une présence. Et quelquefois, on serre la ceinture. Boum! Je sais en qui j'ai cru. Je sais. Et donc, si tu n'as pas cette vérité du salut, cette vérité de Jésus en toi, comment tu vas résister devant toutes les autres vérités? Et moi, je ne discute pas avec les gens. Ah, mais la vérité, les bouddhistes ont la vérité, les musulmans ont la vérité. Non, ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas là. Si tu n'as pas Christ crucifié, ressuscité, Fils de Dieu, tu n'as aucune vérité. Et c'est pas, je ne suis pas endoctriné. Rob, tu as pris la Bible depuis ta jeunesse. Ce n'est pas une endoctrination. C'est une expérience de vérité. Tu expérimentes la vérité. Et même les gens, ils savent qu'ils expérimentent le mensonge parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans leur vie. Toute leur vérité, c'est les emprisonner dans la haine. Ça les emprisonne dans la misère. Ça les emprisonne dans l'impureté. Mais la vérité de Jésus-Christ te libère. Cette vérité te libère. Et donc, si tu n'as pas une vérité qui te libère, tu n'as pas la vérité. Et la vérité, c'est une présence. Et donc, voilà, première chose, paf, on prend la vérité. Et après, hein, il dit, prenez la vérité. Voilà. Et après... Tenez donc ferme, ayez à vos reins, tac, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Allez, 1 Corinthiens 1, 30. Il dit, or par lui, c'est encore Christ. Or par lui, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. Qui, de par Dieu, a été fait pour nous, encore Christ a été fait pour nous, sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et donc, moi, j'ai ma cuirasse de Christ là. Justice, sagesse, rédemption. Allez, c'est là, ça me protège, ça protège mon cœur. Donc Christ est notre justice. Et là encore en 2 Corinthiens 5:21. 2 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a pas connu le péché, voilà, celui qu'on a célébré dans cette sainte scène, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors là, j'ai pas honte. Tac. Tu sais, quand tu as une cuirasse, tu bombes le devant là. Et c'est pas avec un orgueil d'homme, mais c'est cette soumission à la justice. Allez, je suis fier d'être chrétien. Et je suis justifié par la grâce. Justifié. À la fin, tu me parles. D'accord. Oh, pardon. Pardon, ça va. C'était quel verset? Pardon, 2 Corinthiens Le premier, c'est 1 Corinthiens 1.30, pardon, hein. 1 Corinthiens 1.30 et après 2 Corinthiens 5.21. Pardon, hein, je pensais que tu voulais me poser une question, mais c'est bien. Et, bon, c'est, et donc 1 Corinthiens 1.30, 2 Corinthiens 5.21. Et donc, voilà, avoir cette cuirasse de la justice. Et là, c'est ne pas avoir un cœur rempli d'amertume, d'avoir un cœur rempli de toutes sortes de mauvaises choses. Mais là, la cuirasse, allez, tu me guéris, Seigneur. Tu me restaures. C'est dans cette cuirasse de la justice, il y a la guérison. Tu vois? Il y a la guérison. Il y a la guérison de notre être. Allez, continue, Rob. Allez, je vous. Qu'est-ce que c'est le troisième arme? Qu'est-ce que c'est là? Quand tu lis Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il faut mettre après la cuirasse pour ceux qui suivent? Oui, avant ça, mettez pour chaussures. Ah, chaussures. Le salut viendra. Chaussures. Donc, quand tu portes des chaussures, c'est pour aller, c'est pour aller quelque part. Je mets mes chaussures. Quand je suis à l'intérieur, je suis en pantoufles. C'est gentil. On est en pantoufles. Mais Dieu ne veut pas une église en pantoufles. Il veut une église en chaussures. Ça veut dire qu'on marche. Et on marche avec quoi? On marche. Il veut une église en marche, mais on marche avec toi, avec quoi? Mettez vos chaussures à vos pieds. Les bonnes dispositions, ça veut dire une préparation, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Et la paix est reine en grec, mais shalom en hébreu. Cet évangile de shalom. Et nous devons être en route, hein, d'avoir les bonnes dispositions. C'est de proclamer cet évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ. Et Ésaïe 52, et versets 7 et 8. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Amen. C'est là où Saint Paul, il a été inspiré par Ésaïe. Qui sont beaux sur les montagnes, qui sont beaux dans la société, là où vous marchez chaque jour. Ils sont beaux vos pieds, les pieds du messager de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Autour de nous, on fait une publicité de paix par notre vie, la paix de Christ. Moi, je veux communiquer la paix quand je suis là où Dieu m'envoie, quand je suis dans un foyer, quelqu'un m'invite, quand je parle aux gens. Je veux parler de la paix, de shalom, de la vie, qui publie le salut, qui dit à Sion, « Ton Dieu règne, c'est la voix de tes sentinelles. » Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion, éclater ensemble en cris de triomphe, ruine de Jérusalem. Quelle promesse nous avons. Et ça, ce n'est pas caduque maintenant, c'est irréversible. On ne peut pas enlever les promesses que Dieu a faites pour son peuple. Et pour nous aussi, merci Seigneur, donne-nous d'être un évangile mobile. D'être un évangile mobile. Que ma vie soit un évangile mobile. Et vous savez, vous défiez Satan chaque fois que vous dites le mot Jésus-Christ. Chaque fois que vous parlez de Dieu. Et même sans parole, chaque fois que vous entrez quelque part avec la prière en vous, avec la lumière en vous, vous défiez l'ennemi. Si on est juste en pantouflant chez nous, ça va. Mais c'est beaucoup mieux quand on met c'est à nos chaussures préparées pour l'évangile et préparer les bonnes dispositions. Ça veut dire que je suis disposé à parler, je suis disposé à être un évangéliste, je suis disposé à être un missionnaire là où le Seigneur m'envoie, je suis disposé, je suis préparé et je cherche des opportunités à témoigner de Jésus-Christ. Et donc voilà, faut garder nos pantoufles pour qu'on est entre nous. Mais après, on va mettre nos chaussures de marche, de course, pour prêcher l'Évangile. Parce que ça, dans les derniers temps, c'est l'entreprise qui marche. Et cet Évangile du royaume, et cette bonne nouvelle de l'Évangile du royaume, sera prêchée au monde entier comme témoignage. Et puis viendra la fin. Allez, après les chaussures, la foi. Et mettez vos chaussures, prenez, verset 16, prenez en toutes circonstances. On ne sait pas les circonstances de demain, d'aujourd'hui, de cet après-midi. Quelles circonstances vont nous atteindre? On ne sait pas des circonstances qui nous attendent. Mais en toutes circonstances, je prends le bouclier de la foi. Et ça, c'est quand même très utile, parce qu'il dit avec lequel, hein, c'est quelque chose, la foi, c'est tellement actif, c'est tellement important, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Est-ce que tu as reçu des traits enflammés du malin? Encore le diable, qui tire des traits enflammés, il veut brûler, il veut te démolir. Il veut que ça passe le bouclier là. Mais imagine les gens sans bouclier, tous les traits enflammés qu'ils reçoivent dans une journée, sans se défendre. Hein, souvent, ça passe par quelqu'un qui a une petite arc ici avec leur bouche. Ils tirent, paf, et ça entre en toi. Et ça brûle, ça te fait mal, mais tu ne sais pas que faire avec. Et il y a tellement de traits enflammés. Je dirais les médias, mais quelle flèche enflammée nous recevons devant nos écrans, et nos enfants devant leurs écrans. Il y a des traits enflammés qui sortent, et ça brûle toute pureté, ça brûle toute justice, ça brûle. C'est des mensonges. Et les gens, ils sont complètement handicapés à cause de tous ces traits enflammés qu'ils reçoivent. Tout est brûlé. Et c'est comme une maison brûlée. Au lieu d'être un temple, un palais, nous avons des maisons brûlées. C'est terrible. C'est terrible d'avoir une maison brûlée et on survit. Mais on pourrait avoir un palais. Il faut bien défendre ta maison. Il faut bien défendre ta maison. Là, il y a deux entrées. Il faut mettre le bouclier de foi autour de tes oreilles. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons de la parole de Dieu. Alors là, tac, parole de Dieu, foi, ça fait grandir mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier, ma force, dit David, dans le psaume 28:7. Et nous, on doit avoir un bouclier, le bouclier de Christ autour de moi. Qu'est-ce que Saint Patrick, il a dit? Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ en largeur, le Christ en longueur et le Christ en hauteur. Amen. Hein? Amen. Et donc, est-ce qu'on est activement en train de porter ce bouclier? Couvre mes oreilles, couvre mon cœur. Allez. Ta parole, Seigneur. Et surtout quand les gens, t'es nul, même tout le temps, moi je fais des... Ce matin, j'ai fait un rêve, là, c'est terrible. Et je prêchais, j'arrivais pas à ouvrir ma Bible, je ne trouvais pas des références, et tout le monde dormait, et après ça me prenait 15 minutes, et je ne trouvais pas, et je pleurais, mais je dis, mais ça vient d'où? Ça vient d'où, ce rêve? Mais vraiment, ça me démolissait. Après, quelqu'un d'ici, mais les gens que je connaissais se levaient, m'accusaient. Mais je dis, mais Satan veut semer ce trait enflammé, que je sois contre cette personne. Cette personne est complètement innocente, mais Satan a mis un rêve. Non, j'ai entendu des paroles de cette personne qui maudissait, il dit, ah, mais t'es complètement nul, da, 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 da. Et après, j'ai commencé à pleurer. Je me suis réveillé, heureusement que Sylviane est à côté de moi, mon premier bouclier. Là, oh là là, mais tu imagines, on est tellement victime quelquefois des traits enflammés de Satan. Et on doit avoir ce bouclier. Il dit non, mais arrête-toi. Arrête-toi, casse-toi, allez, t'es vaincu. Bouclier de la foi, bouclier de la foi. Après, le casque, allez, merci Civil, le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut, le casque du salut. Michel, elle a son casque du salut ce matin, c'est bien, alléluia. Merci Seigneur, le casque du salut. Et il définit ce casque dans 1 Thessaloniciens 5.8. Hein, 1 Thessaloniciens 5.8. Nous lisons, mais nous qui sommes toujours, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Ah, il ajoute un petit mot là, l'espérance du salut. Et ce casque, c'est mon espérance. Je suis là, dans mon cerveau, c'est programmé pour l'espérance. C'est pas programmé pour la déprime. C'est pas programmé pour juste voir et être comme un mouton qui suit toutes les mauvaises nouvelles des médias. C'est vraiment pas ça. Il faut avoir le salut et de trouver la joie de notre salut. Moi, j'ai la vie éternelle. Je sais que Dieu va tout restaurer. Je sais qu'il va tout restaurer pour Israël. Moi, j'ai beaucoup prié pour ça. J'ai pensé à Auschwitz, toutes ces misères. Je pense à ces femmes qui ont... Mais il y a des atrocités. Et c'est pas insupportable parce que quelqu'un a supporté ça. Jésus, il a vaincu le mal. Et il va tout restaurer. Il va tout restaurer, la joie du salut. Il y a une restauration au-delà de l'horreur. Ça c'est, il faut voir au-delà de l'horreur. Il faut avoir cette espérance. Il y a quelque chose qui est au-delà de l'horreur en Jésus-Christ. Et il faut avoir ce casque. Moi j'ai un casque là, qui me fait entrer dans un autre monde quelquefois. C'est vrai, c'est assez surnaturel. Et quand il y a des horreurs, je dis non, 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 ça c'est pas la fin de l'histoire, ça c'est une bircule. Non, non, je sais qu'il y a pas. Il y a un monde où une Jérusalem céleste descend, comme une épouse sans tache ni ride, où Dieu guérit les cœurs, il essuie les larmes de son peuple. Tu peux imaginer Dieu ne pas faire ça. Et aussi, je suis joyeux parce que Dieu va juger le mal. Il va juger éternellement le mal. Et tout ce ne. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et après, ils ne peuvent rien faire, même s'ils essayent de tout faire. Mais après, ils ne peuvent rien faire. Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et après jeter l'âme dans la géhenne pour une destruction éternelle. Il faut avoir une crainte de Dieu. Et tous ceux qui font le mal, la pire chose que tu peux faire, c'est d'être antisémite en ce moment. C'est être antichristique. Il faut avoir peur de faire ça, d'être séduit par cet esprit. Allez, gardons l'espérance. Gardons l'espérance. Gardons l'espérance. Allez, l'épée. On arrive à l'épée. À l'épée. Et là, il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Cette parole, mais je dirais l'épée de l'esprit, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus, qui glorifie sa parole. Et donc c'est le, en anglais on dit a sword, et donc S-word, hein, sword, S-word, la parole ointe par l'Esprit. Et d'avoir une parole ointe, c'est ce que j'essaie de vous donner ce matin. Hein, c'est de vous donner une parole ointe par le Saint-Esprit. Et cette parole ointe par le Saint-Esprit nous libère. Et d'avoir chacun de nous dans notre cœur cette semaine une parole ointe par le Saint-Esprit. Vous savez, le verset que j'arrivais pas à trouver dans mon rêve ce matin, c'était en Luc. Et allez, je vais le trouver. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi à le trouver. Allez, la parole, je voulais, c'était Luc 3:21. Et c'est quand Jésus il est baptisé. Et l'Esprit Saint descendit sur lui. L'Esprit Saint, l'épée de l'Esprit est descendue sur lui. Mais quand il y avait l'Esprit, il y avait aussi une parole. D'accord ? C'était l'Esprit-parole. Et l'Esprit Saint descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vient une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Alléluia. Israël est aussi la prunelle de l'œil de Dieu. C'est le fils bien-aimé de Dieu. Comme Christ est le bien-aimé, Israël aussi le bien-aimé, objet de mon affection. Et nous aussi, toi aussi, ce matin, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Et ça, c'est le fondement de notre vie. Prenez l'épée de l'Esprit. Comme ça, tu dis, je ne suis pas nul. Je suis aimé. Je suis l'objet de l'affection de Dieu. Je suis l'objet de l'affection. Je suis bien-aimé. Je suis utile. Je ne suis pas un objet perdu. Je suis un objet d'affection. Et donc, cette épée de l'Esprit, il faut avoir des épées. Hein, parce qu'il faut pouvoir lutter contre les mensonges. Parce que l'homme, il peut tout faire, n'est-ce pas? Tu prends un homme, comme en Allemagne, comme le Hamas et tous ces trucs-là, ils prennent des enfants, et depuis leurs enfants, ils sèment le mensonge, ils deviennent des monstres, comme les Allemands sont devenus des monstres, des gens, parce qu'il y avait un Hitler donner une mauvaise parole. Et là, je vois la vraie bataille, c'est contre ces idéologies de destruction, ces paroles de destruction. Et donc, quand nous, on ne soit plus victimes de ça, mais que cette épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la vérité, nous libère, et que nous puissions combattre avec cette épée toutes les mauvaises semences, toutes les mauvaises idéologies sataniques qui polluent le monde. Allez, et en tout temps, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières. Et bien sûr, la prière, c'est aussi notre arme, de prier avec toutes sortes de prières. Et vraiment, une dernière parole pour terminer, Romains 12. Je prie beaucoup cette parole en ce moment, parce que moi, je veux ma vengeance, tu vois. Je suis en colère et je veux ma vengeance. Et il dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire aux gens? Moi, j'aimerais mettre des charbons ardents sur leur tête. Tous mes ennemis, j'aimerais vraiment j'aimerais les torturer avec des charbons ardents. Tiens, vraiment. Et après, je trouve, en Romains 12, il parle d'un ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il parle d'un ennemi quand même. Et qui c'est mon ennemi? Mon ennemi, c'est le péché. C'est la mort qui est le fruit du péché. La mort et Satan. Voilà, on a dévoilé. Ça, c'est l'ennemi. Mais si ton ennemi a faim dans lui à manger, s'il a soif dans lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et donc là, c'est la lutte spirituelle. La lutte spirituelle. Et la dernière arme, c'est l'amour. La dernière arme, c'est l'amour. C'est comme Christ. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Mais là, il a amassé des charbons ardents sur le royaume de Satan. Et Satan est en train de brûler déjà, même avant d'aller dans la géhenne pour l'éternité, à cause de l'amour et le don de nos vies. Et donc ça, c'est l'ultime arme, c'est l'amour. Et je termine avec cette phrase magnifique. Ne sois pas vaincu, amen, ne sois pas vaincu par le mal. Ça, c'est une bataille. Mais ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Amen. Allez, je vais prier. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans nos vies, pour ta gloire. Amen. Allez, shalom.